Bonjour à tous. Aujourd'hui, psychanalyse et travail.
Et j'ai travaillé, j'ai collé les étiquettes.
Mais j'ai bien travaillé.
Mais ouais,
travail. Là déjà une bonne nouvelle.
Ah bon.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
C'est la santé, chantait Henri Salvador. On pourrait aussi ajouter, c'est du plaisir. Enfin, on aimerait bien, parce que ça ne marche évidemment pas à tous les coups. Le travail, c'est quand même cette ambivalence permanente entre le plaisir et la souffrance. Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on y va corps et âme, c'est comme ça, on n'y peut rien. On y engage notre être, notre subjectivité et même notre identité. Le problème aujourd'hui, c'est que notre viatique à tous, c'est faire plus et mieux, mais avec moins. Moins de temps, moins d'argent et souvent aussi moins d'éthique. Alors la santé, le plaisir peut-être, mais de plus en plus aussi fatigue, stress, sommeil agité. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le meilleur des cas, toujours, on s'arrange avec nous-mêmes. Allez, c'est normal, je suis un peu fragile en ce moment, ça va passer.
En fait, je me disais que nous pourrions prendre rendez-vous avec un professionnel.
Un psy? Tu penses que je suis fou?
Bien sûr que non.
Et voilà, deux cinglés de plus dans la nature.
Anna a 30 ans de métier. Elle est psychologue. 30 ans qu'elle travaille auprès des patients psychotiques dans une institution en pointe dans le courant qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle. Des médicaments, pourquoi pas, mais surtout de l'écoute, des échanges et une ouverture sur l'extérieur pour que le malade aille mieux. 30 ans que son éthique professionnelle est liée à cette pratique. Et puis arrivent de nouvelles méthodes de travail. Plus question de cela. On n'a plus le temps, madame, vous faites de la surqualité, lui hurle-t-on. Maintenant, c'est protocole, grille d'évaluation et paperasse. Alors Anna tente de résister, seule, après 30 ans de travail en équipe. Un soir, elle rentre chez elle. Elle a très mal au ventre. « Allez, ça va passer, je somatise », se dit-elle. Le lendemain, Anna sera hospitalisée d'urgence pour un infarctus du myocarde.
France Inter, n'est pas fou qui veut, Ophélie Vivier.
Bonjour Christophe Dejour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste et professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, où vous dirigez la chaire Psychanalyse, Santé et Travail. Vous avez récemment publié « Souffrir au travail n'est pas une fatalité » de point Le Choix aux éditions Bayard. Donc c'est vous qui avez reçu Anna en analyse pendant 2 ans, suite à son infarctus. Mais avant de nous plonger dans son histoire, peut-être un mot sur votre travail de psychanalyste. Vous vous intéressez en fait aux effets du travail sur notre psychisme et sur notre santé mentale, comme vous dites. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à articuler les deux?
Bon, c'est une vieille préoccupation qui remonte déjà avant la dernière guerre et qui a pris plus consistance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans un moment très particulier où s'élaborait justement la psychothérapie institutionnelle.
On va y
et
venir.
Puis ce domaine qui est le mien, qu'on appelait à l'époque la psychopathologie du travail, c'est-à-dire les pathologies mentales en rapport avec le travail. Mm-hmm. Donc tout ça a été pensé en 1943-1944 dans un hôpital psychiatrique dans le centre de la France, dans le Massif central, qui s'appelle Saint-Alban.
En Lozère.
Donc c'est... Voilà. Et puis, moi, je me suis aussi intéressé, comme vous le disiez d'ailleurs en introduction, à la question du plaisir dans le travail. Mm-hmm. Parce que le travail n'est finalement jamais neutre vis-à-vis de la santé mentale. Il peut générer le pire. Aujourd'hui, ça va, comme vous savez, jusqu'au suicide d'un certain nombre de salariés sur les lieux mêmes de leur travail. Mais paradoxalement, le travail peut aussi générer le meilleur. Le fait de travailler, c'est une chance, non seulement pour gagner sa vie, mais également pour construire sa santé, construire son identité, même on peut dire jusqu'à aller s'accomplir soi-même. Donc, et c'est un médiateur dans la santé mentale qui est irremplaçable. Donc le problème qui est posé dans cette discipline qu'on appelle la psychodynamique du travail, c'est pourquoi le travail tourne dans certains cas au malheur, dans certains cas au bonheur. Quand on a compris ces conditions, évidemment, on a deux types d'interventions. L'intervention auprès des patients, c'est-à-dire ceux qui tombent malades, qui sont déjà, ce qu'on appelle techniquement, en situation de décompensation, c'est-à-dire ils ont des troubles psychiques, ou comme cette patiente dont nous allons parler, faire éventuellement des décompensations sous la forme d'une maladie somatique, en l'occurrence un infarctus du myocarde. Puis alors, il y a un deuxième domaine d'intervention, c'est maintenant l'intervention dans le champ de l'entreprise, dans les institutions, les administrations, services publics, mais c'est aussi bien l'agriculture, l'élevage. Il y a un rapport très spécifique entre les contraintes de l'organisation du travail, d'un côté, et de l'autre, ce qui se passe du point de vue psychique, pour le pire ou pour le meilleur.
Alors, on va y revenir dans cette émission. Mais aussi, nous allons parler avec le cas d'Anna de ce que c'est que la souffrance éthique. Ça, c'est quelque chose que vous avez relevé aussi au fil de vos travaux. Un petit mot de définition. Qu'est-ce que c'est que la souffrance éthique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a de si contemporain?
La souffrance éthique, c'est une découverte récente. C'est certainement lié aux transformations, les dernières transformations dans l'organisation du travail. La souffrance éthique commence à partir du moment où un travailleur est amené, à cause de l'organisation du travail, à apporter son concours à des actes ou à des pratiques que le sens moral réprouve. Et là commence le domaine de la souffrance éthique, qui est vraiment quelque chose de massivement présent aujourd'hui dans le monde du travail, parce que nous sommes quand même amenés à faire beaucoup de choses qui sont finalement en désaccord, c'est un mot un peu faible, sont en fait une sorte de violation des règles de métier. Et quand on trahit ces règles, alors on entre dans le domaine de la souffrance éthique.
C'est ce qu'on va voir avec l'histoire d'Anna. Au sommaire donc aujourd'hui, le travail, ou plutôt l'organisation du travail et ses effets sur notre santé mentale. Pourquoi est-ce que Anna craque justement? Et pourquoi est-ce qu'elle en arrive à déclencher un infarctus? À quel conflit psychique elle est confrontée? Et puis, que peut bien y faire le psychanalyste? Et comme chaque semaine, à la fin de l'émission, une personnalité nous livrera son regard sur la psychanalyse. Aujourd'hui, ce sera le regard d'un homme politique, Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste de l'économie et aujourd'hui commissaire européen aux affaires économiques.
Et je pense que c'est compliqué en réalité de faire une analyse quand on est un homme politique, parce que précisément la politique est aussi une construction où on organise toute une série de barrières, de défenses, non pas contre soi-même mais contre son intimité, où on est obligé de durcir son personnage, de donner une carapace. On doit avoir peur, sans doute, au moment du passage à la psychanalyse, de briser cette carapace, de se vulnérabiliser, de se mettre à nu.
France Inter, Ophélie Vivier n'est pas fou qui veut.
Les Black Keys sur France Inter, Lonely Boy. Alors Christophe Dejour, vous êtes psychanalyste, c'est avec vous donc Anna va entamer une analyse qui va durer 2 ans. Au départ, elle vient vous voir parce qu'elle est convalescente, elle vient donc de faire un infarctus du myocarde. Comment se déroule le premier entretien? Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Elle vient essentiellement, je pense, parce qu'elle se sent coincée dans une situation dont elle ne voit pas bien l'issue. Elle vient donc pour chercher matière à réflexion et éventuellement trouver des solutions. Voilà, je suis dans le milieu, je suis un peu spécialiste au sujet de ces questions du travail. Donc elle a entendu parler de ça.
Elle sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a dénoué chez elle.
Oui. Mmh. Elle vient parce qu'elle pense que moi je sais. C'est une situation quand même de base.
On va voir
un psychanalyste, on pense que... Évidemment, on s'adresse et on a un intérêt, une curiosité à aller voir le psychanalyste parce qu'on pense qu'il sait. Mmh. Alors, c'est vrai que le psychanalyste sait un certain nombre de choses et en même temps, il ne sait pas précisément ce qu'il convient de faire.
Justement. Il découvre aussi en même temps que son analysant.
Donc, je lui demande de me raconter pourquoi elle vient me voir.
Mmh. Dans quel état elle est ?
Elle est angoissée quand même. Elle a beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un qui a déjà fait une analyse par le passé. Et comme de son métier, elle est psychologue, qu'elle est très engagée dans son métier, évidemment, elle ne se heurte pas directement aux mêmes obstacles que les patients ordinaires. Alors ce dont elle me parle, c'est que depuis quelques années, il y a des changements importants qui sont survenus dans son travail. Elle travaille dans une institution de soins qui est extrêmement réputée depuis très longtemps, depuis des décennies en France, justement dans sa connaissance et sa pratique de la psychothérapie institutionnelle, qui est une certaine méthode de soins prodiguée aux malades mentaux, en particulier ceux qui sont atteints de pathologies lourdes, chroniques et qui vont passer peut-être même une partie de leur vie, voire leur vie entière, dans des institutions de soins.
Enfermée.
Donc elle était engagée très fortement là-dedans depuis 25 ans dans cet établissement. Et puis sont survenus des changements extrêmement drastiques, extrêmement brutaux. On a changé de directeur, on a introduit une direction administrative avec de nouvelles méthodes de travail qui vont se retourner contre les soignants d'une façon extrêmement dure, contre les médecins d'abord, les médecins psychiatres. Puis la seconde vague sera contre les psychologues. Mais le premier temps, c'est l'attaque de la direction administrative, la direction de la nouvelle gestion, contre les médecins. Donc il va y avoir des vagues de licenciements. On licencie un certain nombre de médecins et puis on en garde certains autres. Évidemment, la condition qu'il y en ait un qui accepte de prendre la direction médicale de l'établissement remplace un de ses prédécesseurs qui donc a été licencié, à condition qu'il fasse alliance avec la direction. Donc on lui demande en quelque sorte de collaborer à des méthodes qui ont en fait pour destination de détruire la dite psychothérapie institutionnelle.
Alors peut-être pour qu'on comprenne bien justement les changements en termes de pratique et de culture, dire peut-être un mot supplémentaire sur la psychothérapie institutionnelle. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est un mouvement qui naît pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite s'est cristallisé et s'est théorisé. Ce sont des résistants en fait, souvent communistes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fuient le nazisme et qui vont se réfugier en fait dans des lieux, dans des asiles, donc notamment à Saint-Alban en Lozère. Et là en fait, le contexte est dedans, ils se rendent compte que faire participer les malades à la vie quotidienne, ça participe du soin. Et que finalement, l'institution a un réel effet, enfin la santé de l'institution a un réel effet aussi sur la santé des malades. Et donc finalement, c'est ce que certains diront, il faut soigner l'hôpital avant de soigner le malade. Et en termes de pratique, ça veut dire quoi ça pour Anna? Comment elle travaille avant que ces nouvelles méthodes de managériale arrive.
Si vous voulez, le principe de la psychothérapie institutionnelle, c'est, on sait, nous, par expérience, qu'un certain nombre de malades vont devoir rester quand même très longtemps dans l'hôpital. Et alors, le soin ne se limite effectivement pas à donner des médicaments et ou à faire des électrochocs. Ça n'est pas possible. Et donc l'idée, c'est que le soin passe aussi par l'organisation d'une vie en commun. Et l'idée, c'est de faire participer les malades avec les infirmiers, avec les autres paramédicaux, avec les médecins, tout le monde. Et puis que chacun puisse apporter une contribution, par exemple, dans la préparation des repas, dans l'entretien du jardin et du potager, dans le soin aux animaux, parce que là, en l'occurrence, il y a une clinique qui a joué un rôle majeur, ce qui s'appelle la clinique de la Borde, qui était dirigée par Jean Houry. Donc là, il y a des chevaux, par exemple, parce que les chevaux, c'est très important avec les malades mentaux. Quand ils sont dans le rapport avec le corps du cheval, ils revivent. Et ça a un effet très puissant, si vous voulez, de retrouvailles du sujet avec ce qu'il y a de vivant en lui. Et donc, chacun apporte sa contribution au travail général. Et l'organisation de ce travail fait l'objet d'une élaboration collective chaque jour. Voilà. Et c'est de cette intégration que les patients tirent des bénéfices considérables. C'est-à-dire que c'est assez gratifiant d'être capable de faire quelque chose. Le retour est considérable.
Donc voilà. Anna, puis, elle est là-dedans. Elle est dans cette philosophie de travail, voilà, dans cette pratique de travail. Et tout à coup, de nouvelles règles qui arrivent. C'est quoi ces règles? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire concrètement?
On lui demande vraiment de faire l'inverse de ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Oui. D'abord, il n'y a plus de travail collectif. Chacun est renvoyé dans sa spécialité. Donc elle est psychologue, elle fait le travail de psychologue. Mais non seulement on ne veut plus qu'elle travaille à cette œuvre commune, cette œuvre collective, à cette coopération générale, mais dans le travail même du psychologue, il y a une intrusion de l'administration qui exige qu'on fasse certaines méthodes et pas d'autres. Par exemple, la psychanalyse devient progressivement interdite. Les gestionnaires, ils disent la psychanalyse, les psychothérapies, ça n'est pas efficace. Et donc, vous allez maintenant faire des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'elle faisait. Et puis d'autre part, on va lui demander d'entrer des objectifs sur chaque malade, avec un délai sur 6 mois. Et au bout de 6 mois, on réévaluera les résultats. Et dans cette mise en tableau, en fait, vous êtes amené à donner le nom du malade, à donner le diagnostic, c'est-à-dire trahir le secret professionnel. Donc on l'amène, si vous voulez, à trahir les règles du métier, mais finalement à trahir aussi la déontologie médicale, trahir les collègues aussi, parce que finalement, on laisse tout le monde seul. Et le deuxième élément probablement essentiel de ça, c'est la solitude.
Oui, elle se retrouve terriblement seule.
Et très seule, avec des systèmes de contrôle qui sont individualisés, c'est ce qu'on appelle l'évaluation individualisée des performances, mise en concurrence de tous les psychologues entre eux, et ceux qui auront les plus mauvais résultats seront en priorité licenciés. Ce qui est le plus pénible et le plus dur, elle a vu les autres qui ont cédé. Elle a vu le nouveau médecin-chef qui était anciennement un ami, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, il y avait une sorte de complicité intellectuelle, mais aussi une complicité pratique. Il s'est retourné et il devient le servile. Il va lui-même procéder au licenciement d'un certain nombre de ses anciens collègues. Pour vous donner un exemple, il lui interdit maintenant de faire référence au passé.
Voilà une chose qu'elle me raconte
comme ça. Ce médecin, qui est un médecin qu'elle connaît depuis très longtemps, qui lui dit « À partir de maintenant, je ne veux plus jamais entendre parler du passé. Le mot « passé » est interdit. » Évidemment, pas seulement dans la psychothérapie institutionnelle, mais quand on est dans la psychiatrie, dans la psychanalyse, si on ne peut pas faire référence au passé, de quoi parle-t-on, si vous voulez ? On est toujours renvoyé à la question du passé, jusqu'à la petite enfance de chaque patient. On est en plein comble du paradoxe, si vous voulez. Et donc, cette femme, elle est déchirée là-dedans. Voilà.
Mademoiselle, monsieur, on n'a que ce qu'on mérite. Chacun ce qu'il mérite, c'est juste, c'est justice. Je vous remercie. Quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve. On prouve.
Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé.
Mademoiselle, monsieur, il n'y a pas de sans métier. De toute façon, c'est ça ou rien. Choisissez. Vous prenez ou vous ne prenez pas, vous exagérez. Réfléchissez, le train ne repassera pas, la charrette, oui. Pas de poste pour le moment, je suis au regret. Mais je peux vous proposer un stage. J'aurai pour cela besoin d'une convention de stage. Non rémunérée. Mademoiselle, monsieur, vous prenez ou vous ne prenez pas, de toute façon, c'est ça ou rien. Choisissez.
Vous l'avez bien mérité.
Si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Vous n'aviez qu'à être fonctionnaire. Emploi à vie, 3 pelletées de vacances, pas grand-chose à faire. Si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Vous n'aviez qu'à. Vous n'en seriez pas là. Pas de vieux chez nous. Si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Pas de PD chez nous. Vous êtes enceinte. Il faut bien que l'entreprise tourne. Et les Français d'abord, je vous prie. Il n'y en aura pas pour tout le monde.
Vous l'avez bien mérité, vous l'avez pas volé. l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé.
C'est ça où notre entreprise dépose le bilan. C'est la loi du marché. Je suis au regret. Logement social, 7 enfants et autant d'allocations. Ça leur fait de jolis revenus. Cherchent un emploi ? Non, ils cherchent pas. Ni responsable, ni coupable, hein, tout leur est dû. Mais comment expliquer que vous soyez resté sans emploi pendant plus d'un an ? Reprenez-vous, je vous pose une question, une simple question. Je suis recruteur, je fais mon métier, je ne fais que mon métier. Mademoiselle, monsieur, quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve, on prouve. Je vous remercie.
Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez bien mérité.
C'était la chanson du DRH par Arnaud Catherine et Florent Marchais. Vous l'avez pas volé, quand on veut, on peut. Il y a un peu de cela dans la logique managériale contemporaine, Christophe Dejour.
Oui, sans doute. Voilà, c'est ça qui complique un peu les choses. Mais enfin, il faut être très nuancé.
Bon, alors on est ensemble pour raconter l'histoire d'Anna. Anna, donc, qui vient vous voir, qui est ébranlée psychiquement, somatiquement aussi, puisqu'elle vient de faire un infarctus. Qu'est-ce que vous faites en tant que psychanalyste ? J'imagine que vous vous dites pourquoi ça tourne comme ça pour elle, puisque pour les autres, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, ses collègues, finalement, la plupart d'entre eux consentent. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher avec elle pour comprendre ce qui se passe ?
Elle a quand même failli mourir. On est là, passé très près du pire. Elle, ce qu'elle cherche, en fait, à comprendre en venant me voir, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire ? Parce que retourner dans cette institution, se remettre à travailler, c'est se confronter à l'obligation, de nouveau, de faire des choses qu'elle ne peut pas accepter de faire. Mais alors, elle est coincée parce que, d'un autre côté, elle ne veut pas être en arrêt de maladie.
Pourquoi ?
Parce que, voilà, là, on arrive sur l'histoire familiale. Parce que c'est une famille dans laquelle le père... pour lequel elle a une très grande admiration et qui est peut-être une idéalisation même, mais enfin bon, c'était un homme sûrement particulier, remarquable, et son grand-père aussi, le père du père, sont des gens qui ont vraiment une tradition de résistance pendant la guerre. Ce sont des gens qui ont vraiment marqué les lieux dans lesquels ils ont travaillé.
Mais j'imagine que là, vous, en tant que psychanalyste, en entendant ces mots, c'est signifiant, ouais. Résister, ça fait écho justement à sa situation. C'est-à-dire qu'il y a
tout
une forme
fait.
De résistance qu'elle a essayé d'avoir face aux transformations de l'organisation du travail. La question de la collaboration des autres, la collaboration pendant la guerre. J'imagine tout ça, vous
tout
travaillez
ça,
avec ça.
Donc elle pense dans ce cadre-là, qui est évidemment le cadre hérité d'une histoire de famille, mais qui est aussi une histoire politique, qui est aussi une histoire sociale de notre pays quand même. Donc. Et d'autre part, la contrepartie de cette éthique d'un certain engagement dans les valeurs morales et politiques, c'est qu'on ne doit pas être malade. Elle n'a jamais été en arrêt de maladie. Elle n'a jamais eu un jour d'arrêt de travail, cette dame. Et donc, c'est déshonorant d'accepter d'être en arrêt de travail. Vous voyez, c'est des gens qui sont très investis dans leur boulot et qui croient fort à l'œuvre commune.
Donc retourner
donc,
dans l'institution
alors,
ou
retourner,
accepter
c'est risquer de se retrouver dans
l'arrêt
une situation
de travail.
Et l'arrêt de travail est impossible parce que c'est une sorte aussi de démission, c'est une sorte de
trahison
de défaite et de trahison. Et de trahison vis-à-vis de son père, absolument. C'est exactement ça. Alors tout ça, elle le pose sur moi, évidemment. Elle pense un peu que je suis probablement un peu comme son père, où elle se fait l'idée que je suis comme son père.
Ça, c'est le transfert qui fonctionne.
Ça, c'est ce qu'on appelle le transfert. Mais en fait, le plus important, ça n'est pas ça. Je pense que le plus important, c'est qu'elle pense que je sais. Donc, elle attend une réponse. Et moi, je ne vais pas lui donner.
Elle cherche vos solutions.
Elle cherche mes solutions.
Pourtant, elle a déjà fait une psychanalyse. Oui, mais... Elle sait que ce n'est pas comme ça que ça marche.
Oui,
que...
mais ça, vous comprenez, on recommence toujours. Moi aussi, si vous voulez, vous aussi. C'est-à-dire qu'on a beau avoir fait l'analyse, d'une certaine manière, on demande à l'autre. Parce qu'on redevient un peu enfant et on attend que l'autre ait la lumière, l'intelligence que je n'ai pas.
Alors, comment vous faites, vous, avec
donc,
ça avec
et je ne lui réponds pas. La solution, c'est la mienne. Ma solution ne sert à rien. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que la solution pour elle, c'est de se dégager. Il faut qu'elle arrête d'aller dans cette institution pour un certain nombre de raisons politiques. Je pense que la bataille est perdue. Elle le sait et en même temps, elle ne le sait pas. Ça, c'est très typique, si vous voulez, des situations de conflit, ce qu'on appelle un conflit psychique. D'un côté, elle voit bien que la partie est perdue, que la psychothérapie institutionnelle est chassée, qu'on a déjà viré la moitié des médecins et que maintenant, on attaque les psychologues et que les prochaines, c'est les infirmières. Donc elle le sait et en même temps, elle ne peut pas l'admettre. Et d'un autre côté, se dégager, ça n'est pas possible. Donc maintenant, comment faire ? Il faut qu'elle se dégage. Mais moi, comment peut-elle se dégager ? Elle pense que je sais. Moi, je ne réponds pas directement à sa question. Et alors, elle se met à interpréter mon silence. Ah oui, comme je ne réponds toujours pas, c'est elle qui est amenée à m'expliquer davantage les choses. Quel rapport avec son père ? Quel rapport avec la situation présente ? Évidemment, moi, je suis très intéressé par la façon dont elle repense à son père, dont elle repense à sa mère. Le père était courageux, pas seulement sur le plan politique, il était courageux aussi avec sa femme, c'est-à-dire la mère de Madame Firmenès, parce que cette mère, elle était quand même une femme très particulière, avec des troubles psychopathologiques importants. Et cet homme, il est resté. Il est resté avec cette femme jusqu'à sa mort, alors qu'elle était terriblement, extrêmement toxique, si vous voulez. Et ça, c'est aussi le noyau, c'est là que ça se révèle, le noyau de ce qu'on pourrait appeler la vocation de Madame Firmenès.
La vocation c'est professionnelle.
Professionnelle. C'est parce que, justement, elle-même est déjà prise dans cette... Qu'est-ce qui se passe avec la folie de sa mère, d'un côté ? Qu'est-ce qui se passe avec la position de son père ? Et c'est de ces questions issues de son enfance que naît, d'abord, une fragilité psychologique, parce que ça rend fragile d'avoir des parents qui sont pris dans des conflits comme ça, qui quand même envahissent complètement la sphère de la famille, et rendent très difficile le développement de l'enfant. Mais cette fragilité, justement, c'est ce qui va être le moteur d'une implication dans la maladie mentale, dans la psychopathologie, qui va faire d'elle une psychologue magnifique. Donc, les failles, si vous voulez, que nous héritons de notre enfance, c'est ce qui fait notre talent. La fragilité, c'est ce qui donne le génie de l'intelligence et la capacité d'endurance. Mmh. Alors, du coup, quand elle parle de sa famille, on comprend pourquoi elle est tellement engagée dans ce travail. Et maintenant, si vous lui faites faire le contraire, vous cassez ce qu'on appelle le registre de la sublimation. Et c'est un registre majeur, c'est-à-dire la transformation d'un certain nombre d'intérêts dont au départ on peut montrer que ce sont des intérêts sexuels de l'enfant. Tout ça est transformé en désir de comprendre. Et elle est engagée dans tout ça. Et ça, ça a un impact énorme sur l'économie psychique, c'est-à-dire sur la santé mentale et la santé physique dans son ensemble. De sorte que le rapport au travail pour elle, jusque-là, il était certainement une source de souffrance, mais il était aussi une source d'accomplissement de soi. C'est-à-dire que plus elle avançait dans son métier, plus elle s'aimait elle-même, l'amour de soi. Some kind of peace of mind. We've gone the distance and more. And yes, we've been here before. We've all stood in the rain, endured all kinds of pain. Don't try to suggest that you know how to do it best. All the do's and the don'ts. Have you?
do's and the don'ts, they paint us in a corner. Now's the time to express, don't paint me in a corner. All the do's and the don'ts, they paint us in a corner.
C'était Nicole Willis, Paint Me in the Corner. Vous écoutez France Inter, N'est pas fou qui veut. Alors Christophe Dejour, qu'est-ce que ça modifie pour Anna de mettre des mots sur son histoire familiale? Finalement, qu'est-ce que ça transforme de son conflit interne?
Il va falloir en réalité remanier ce rapport avec ce père. Elle est dans une situation où ce qu'elle a gardé de ce père, et qu'elle pense être ce père, est-ce que vraiment ce père n'était que ça? Qu'est-ce qu'il aurait fait le père à sa place dans la situation d'aujourd'hui qu'il n'a pas connue? Nous ne sommes pas dans une situation d'occupation par les nazis, nous sommes dans une situation du système néolibéral, ce qu'on appelle le New Public Management, le nouveau management public, qui est une méthode extrêmement dure qui s'abat. Qu'est-ce qu'il aurait fait le père? Et du coup, cette reconsidération pour le père, c'est quand même refaire le deuil de ce qu'elle a hérité de son père. Et c'est ça qui va lui permettre de se dégager. Et vous allez, elle va trouver vraiment des solutions à elle. Voilà.
Alors, vous considérez que vous avez réussi grâce au travail?
Ah oui, ça, je me suis exprimée par le travail, c'était grâce au travail. D'ailleurs, vous savez, le travail, je suis née avec, j'ai vécu dedans. Dès ma plus tendre enfance, j'ai vu les miens travailler et ils m'ont inculqué l'amour du travail et ils étaient dignes de le faire. Mes parents étaient des gens très amoureux de ce qu'ils faisaient.
En quoi consiste la dépossession du travail? D'abord, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son être. Que, dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie. Qu'il ne s'y sent pas satisfait, mais malheureux. Qu'il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit.
Karl Marx, Le travail aliéné, manuscrit parisien, 1844.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Hommes d'affaires et meneurs de foule travaillant perdre la boule et meurent d'une maladie de cœur.
Henri Salvador, Le travail, c'est la santé, 1965.
Nouveau suicide chez France Télécom Orange. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé sur le parking d'un site du groupe à Mérignac, juste à côté de Bordeaux.
Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations capitalistes. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail.
Paul Lafargue, Le droit à la paresse, 1880. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, s'en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent.
Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1574.
Voilà, on vient d'écouter un petit module sur la notion du travail. La servitude volontaire, Christophe Dejour, ce texte d'Étienne de la Boétie au XVIe siècle déjà, c'est finalement ce que constate Anna, qu'elle ne supporte pas. La plupart de ses collègues vont se soumettre et consentir aux nouvelles formes d'organisation du travail. Vous, vous réfléchissez aussi à cette notion dans vos travaux. Comment est-ce que vous définiriez cette servitude volontaire des temps modernes?
Je pense que nous avons évidemment un certain nombre d'éléments dont ne pouvait pas disposer La Boétie ni Montaigne. Une réflexion de fond sur le travail et une connaissance de la clinique du travail qui est très, très intéressante. Et parce que ce qu'on découvre, si vous voulez, c'est en ça qu'il y aura une sorte de développement par rapport à la thèse de, enfin, la thèse de La Boétie, c'est que les gens souffrent dans le rapport au travail. Tendanciellement, cette souffrance pousse les gens vers la maladie mentale ou la maladie somatique, l'infarctus par exemple. Mais la plupart des gens ne tombent pas malades. ne tombe pas malade parce qu'il développe des stratégies de défense. Et ces stratégies de défense, il y en a qui sont individuelles, mais il y a aussi des stratégies collectives de défense qui sont efficaces, c'est-à-dire qui permettent de contenir la souffrance. Mais elles ont un inconvénient, ces stratégies. Elles sont adaptatives, donc elles sont, on ne peut pas les critiquer puisqu'elles permettent aux gens de survivre, de ne pas devenir fous, en dépit de situations de travail extrêmement pénibles ou extrêmement pathogènes. Mais d'un autre côté, elles ont toutes pour inconvénient de fonctionner par un rétrécissement de la capacité de penser.
D'accord. Et la servitude volontaire, c'est une technique, une stratégie de défense?
Non, la servitude volontaire, c'est le résultat de ces défenses.
D'accord, c'est un effet.
C'est-à-dire que les gens réussissent à rétrécir leur capacité de penser, les conflits qui naissent d'un côté entre ce qu'on leur demande dans l'organisation du travail, deux, ce qu'ils désapprouvent, et trois, ce que pourtant ils font. Voilà, c'est ça qui est pénible. Si vous commencez à réfléchir au fait que vous faites le contraire de ce que vous pensez bien, alors vous avez inévitablement l'angoisse. Il y a deux techniques, si vous voulez, pour arriver à, d'un côté, penser le bien, le faire, quand on est en dehors du travail, pendant que dans la sphère de travail, on fait le pire. Ça s'appelle le clivage. Voilà. Et donc, les stratégies de défense, il y en a une qui ça consiste à ne pas penser ce conflit. Alors, pour ne pas le penser, il y a deux façons de le faire. Ce qu'on appelle l'acrasie. L'acrasie, c'est-à-dire, je sais ce qu'est le bien, je sais ce que je voudrais faire, mais je fais l'inverse de ce que je voudrais faire.
Bon, mais ça apaise pas pour autant, a priori.
Non, non. Alors maintenant, il y a la défense. La première, c'est l'acrasie paresseuse. C'est-à-dire des gens qui disent « Oh, écoutez, ça, franchement, les problèmes qui se posent avec l'organisation du travail, ça me dépasse. »
J'y peux rien.
Non seulement je n'y peux rien, mais ce sont des problèmes qui sont trop compliqués. Donc, c'est trop compliqué pour moi. Écoutez, moi, on me demande de faire ça. Moi, je fais ce qu'on me dit, c'est tout. D'ailleurs, je n'ai pas le choix.
Et donc, c'est ça, voilà. Je n'ai pas le choix.
Et puis, alors, il y a une deuxième acrasie qui est une acrasie sténique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent très bien qu'ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils mentent aux autres. Alors, il y a des stratégies collectives de défense, et notamment des stratégies qu'on a décrites sous le nom de stratégie du cynisme viril. C'est-à-dire cette stratégie essentiellement faite par des hommes, notamment chez les cadres et les cadres supérieurs, où c'est au nom de la virilité qu'il faut regarder la vérité en face, il y aura de la casse, et c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Être un homme, c'est être capable de faire face à ça. Et donc, s'il faut massacrer, faire des plans sociaux, mettre les gens à la porte, éventuellement même les persécuter, jusqu'à ce qu'ils démissionnent, eh ben c'est comme ça, c'est un moment difficile, faut être, on appelle ça le courage viril. Mmh. Et ensuite, vous la rationalisez au nom de l'économie. C'est fini, le temps de la largesse, de l'état-providence, maintenant il faut serrer la ceinture, on ne peut plus continuer. Et donc, vous avez des justifications économiques et des gens qui pensent qu'il faut... En plus, on fait ça bien, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les gens et on va éliminer les bras cassés, les plus nuls, les plus mauvais. Donc ça s'appelle une sélection scientifique.
Et elle constate ça, Anna, elle a ça en face d'elle, hein, finalement, cette servitude volontaire des temps modernes, finalement.
Voilà, et finalement, nous sommes beaucoup confrontés à ça aujourd'hui par les nouvelles formes d'organisation du travail qui nous demandent quand même de faire des choses, de tromper les clients, avec les malades, c'est affreux, c'est ce que je raconte, ce que nous racontons dans ce livre-là, avec les services de réanimation. Et cette souffrance éthique, c'est quand on ne clive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire cette séparation, et donc l'angoisse monte. Et cette souffrance éthique, elle conduit un certain nombre de personnes aujourd'hui jusqu'au suicide. Parce que quand on accepte de collaborer, en fait, on se trahit soi-même. Et on perd l'amour de soi, et ça peut se transformer en haine de soi.
Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait, Anna? Quelle solution elle trouve?
Elle va finalement accepter, et d'ailleurs c'est ce que lui dit son médecin généraliste, son cardiologue, il faut se mettre en arrêt de travail. Elle va accepter le principe de l'arrêt de travail, ce qui est pour elle un pas considérable, si vous voulez. Mais elle va accepter ça, et pendant ce temps, elle va... D'abord, il y a un premier temps qui est la dépression.
Elle est en dépression.
Elle se déprime au fur et à mesure qu'elle accepte la défaite. Et une fois que cette réalité est reconnue, et c'est un passage obligé, alors elle va pouvoir commencer à penser des solutions. Et les solutions, c'est un réinvestissement progressif, non seulement dans des activités artistiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se réinvestir dans la vie associative et la vie dans la cité. Elle sauve d'une certaine manière quelque chose de ses valeurs qu'elle ne peut plus mettre dans le travail, mais qu'elle va mettre dans une activité associative. Et puis malgré tout, comme elle pense que ce qui s'est passé est inacceptable et que c'est un précédent et que au fond tout le monde cède, elle ne veut pas complètement céder. Elle veut pas. Elle va entrer aussi dans une démarche auprès des tribunaux.
Voilà. Et à quel moment vous savez, ensemble, ou vous, en tant que psychanalyste, que son analyse est terminée, que ça, c'est bon?
C'est elle qui décide, c'est pas moi. Moi, je... Non, elle a rétabli un certain nombre de relations à l'extérieur de, donc, de l'établissement, des anciens amis qu'elle avait. Elle retrouve des gens qu'elle avait un peu perdus de vue. Elle reconstitue un nouveau tissu de relations. Elle se sent bien. Elle est... C'est elle qui décide d'arrêter. Moi, je donne mon accord. Mais elle sait que la porte est ouverte et qu'elle peut venir me revoir si elle a besoin. Et c'est pas du tout exclu que je sois amené à la revoir. Voilà.
Cargaison en pure ébène, un mi-vendredi, serions-nous tous des pareils mêmes, circulant de moins à plus l'infini. Fire, et s'ils m'ont vu te sauver, tout en tentant de te tuer, cruel. Je rends grâce quand de mon enfer tu as fait palace. Friday, Friday is the day I found a new sense of life. Venus was ringing the bells of echo. Friday, Friday, hello world, now you'll try the prize. I'll tell. Soit l'autre ou moi-même, pour ce que j'en dis, chaque endroit où pousse nature humaine, nos différences on pourrait en faire paradis. Friday, Friday is the day I found a new sense of life. Venus was shining like a rainbow. Friday, Friday, hello world, took me by surprise. I will tell, ego. Friday, Friday is the day I found a new sense of life. Venus was ringing the bells of echo. Friday, Friday, hello world, I love to say it twice. I will tell.
C'était Romain Humeau, Friday, un titre de la playlist de France Inter. On va maintenant changer de registre, Christophe Dejour, enfin quoique, puisqu'il va aussi s'agir un petit peu d'éthique et de déontologie. J'ai rencontré Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste de l'économie et actuel commissaire européen aux affaires économiques. Et pour lui, la psychanalyse, c'est aussi une histoire de famille.
Même dans la vie réelle, il y a quelqu'un qui réassure le monde, ou le chef, ou l'organisation.
Pierre Moscovici, bonjour. Si je vous dis psychanalyse, vous pensez à quoi ou à qui ?
J'ai tendance un peu à penser à mes parents, puisque mon père est récemment disparu, était un psychosociologue connu, qui avait fait sa thèse sur la psychanalyse, son image et son public. Je crois que c'était en 1955, ce qui ne nous rajeunit pas complètement. Et ma mère... encore de ce monde, était, elle, psychanalyste connue, renommée. Donc je dirais que c'est presque une expérience familiale pour moi, et avec tous les noms qui s'y attachent, à commencer évidemment par celui de Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. C'est quelque chose qui est inscrit, non pas dans mon ADN, mais dans mon expérience familiale, dans ma vie. J'ai vu concrètement ce que c'était qu'une psychanalyste, vivre avec une psychanalyste en quelque sorte, ma mère, dans son rôle maternel, et avec quelqu'un qui connaissait très bien ces sujets-là. Mais mes deux parents étaient évidemment des professionnels de la chose.
Qu'est-ce que vous en compreniez quand vous étiez enfant, justement ?
C'était un autre temps. Je suis né en 1957. Je pense que ma mère a dû devenir psychanalyste au début des années 70. C'était quand même un moment où la psychanalyste était très présente dans tous les débats publics, débats politiques aussi. Et je voyais que c'était un processus d'apprentissage, de compréhension de soi, qui était absolument vital. Aujourd'hui, la psychanalyse est beaucoup plus démodée, sans qu'elle soit finie, mais la question de sa pérennité est, je pense, posée. Les psychanalystes ont sans doute moins de clients qu'aujourd'hui. On croit beaucoup plus à la chimie qu'à l'époque. Mais je pense que la psychanalyse est aussi une façon de se connaître, de se comprendre, non pas de se changer, mais de se modifier à partir de cette compréhension et de cette connaissance. J'ai toujours eu une grande estime pour la psychanalyse, même si je n'oublie pas que pour devenir psychanalyste, il faut soi-même être psychanalysé et donc avoir une solide expérience de la névrose.
Est-ce que vous-même, ça vous a tenté ? Est-ce, ou en tout cas, plutôt, est-ce que vous êtes allé en analyse ?
En analyse, non, mais à un moment dans ma vie, quand j'ai pu connaître tel ou tel passage anxieux, par exemple, j'ai pu rencontrer un psychothérapeute, ou plutôt un psychanalyste avec qui je faisais une psychothérapie en face à face. Et c'est une expérience que j'ai trouvée évidemment très enrichissante. Je n'ai pas été jusqu'au fond de la démarche psychanalyste, je n'en avais pas envie. Peut-être parce que j'avais vu ce que c'était dans ma famille, ça ne me donnait pas envie, précisément. Mais j'ai trouvé que ce processus qui consiste à parler, au fond, avec quelqu'un, à interagir, aider, en effet, à se connaître, se comprendre, et j'en ai trouvé un grand bienfait.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui font des analyses ?
Je n'en sais rien. Ça reste un sujet encore mystérieux, qui n'est pas honteux, mais mystérieux, sans doute. Et je pense que c'est compliqué, en réalité, de faire une analyse quand on est un homme politique. Parce que, précisément, la politique est aussi une construction où on organise toute une série de barrières, de défenses, non pas contre soi-même, mais contre son intimité, où on est obligé de durcir son personnage, de donner une carapace, sans pour autant que la personnalité elle-même soit changée ou devienne monstrueuse. Et on doit avoir peur, sans doute, au moment du passage à la psychanalyste, de briser cette carapace, de se vulnérabiliser, de se mettre à nu. Et donc non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui font des psychanalyses. Moi, quand j'ai eu l'expérience dont je vous parlais, c'était il y a longtemps, c'était plus d'une trentaine d'années, je n'étais pas du tout un homme politique, j'étais un jeune homme qui pouvait se poser les questions que se posait un jeune homme de son âge, à 26 ans, 28 ans, 30 ans, je ne sais plus. Aujourd'hui, ça ne me viendrait pas l'idée de faire une psychanalyse, non.
Et cette forme d'incompatibilité que vous soulignez entre le fait de faire de la politique et de faire la démarche de faire une analyse, est-ce que ce n'est pas non plus lié au statut de la parole ? C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est un peu de dire ce qu'on a en tête, comme ça, ce qui passe par la tête pour dénouer certaines choses. Et en politique, on a quand même le sentiment que la parole est très maîtrisée, constamment calibrée. On parle d'éléments de langage régulièrement, souvent de mensonges, j'ose le dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça par rapport au statut de la parole ?
Non, je ne crois pas que les hommes politiques soient des hommes tous calibrés, formatés. Il y a encore moins des menteurs. Je pense qu'il y a au contraire une très grande vérité, souvent dans la parole politique, une très grande brutalité. Mais je dirais que la petite difficulté que je verrais, c'est cette idée qu'il faut arriver à déconstruire un système psychologique, langagier, qui est forcément extrêmement organisé. Je vais prendre un exemple personnel. Moi, je suis plutôt agoraphobe ou claustrophobe. Je n'aime pas les foules. Originellement, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. J'ai le vertige. Et la politique, par exemple, par je ne sais quelle technique ou je ne sais quelle discipline, m'a appris à être complètement indifférent à ça. Je peux parler devant 2000, 3000, 5000 personnes, ça m'est arrivé. Je peux faire une émission de télévision, je pense que mon pouls ne s'accélère pas d'une seconde. Il y a donc un certain nombre de techniques qui ont forcément quelque chose à trait avec mon psychisme, que j'ai pu construire, qui font que ce qui, comme personne privée, pouvait m'affecter, comme personne publique, m'est totalement indifférente. Et le risque de la psychanalyse, j'imagine, tel qu'on le voit, c'est justement de s'affaiblir sur ce plan-là, c'est-à-dire de déconstruire ce dont on a finalement besoin pour être un homme politique. Un homme politique qui a peur dans une foule, bon, c'est pas possible. Un homme politique qui ne peut pas parler en public, c'est pas possible. Un homme politique qui s'effraie quand la télévision s'allume, ou plutôt quand les caméras s'allument, ce n'est pas possible. Et donc, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire pour autant que la parole qu'on a est formatée, qu'on est tous en langue de bois, ou qu'on a tous envie de raconter des histoires. On est simplement dans une vie qui a aussi sa propre construction.
Vous n'avez pas le sentiment que la langue de bois domine en politique ?
Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais enfin, pour ce qui me concerne, je ne crois pas, non. Je sais très bien en faire quand il faut, comme commissaire européen, comme ministre des Finances, il m'arrive de dire des trucs absolument ronds, sans intérêt, sans aspérité, mais c'est exprès. Bon, la langue politique peut être aussi d'une très grande brutalité, d'une très grande sincérité, non, je ne crois pas.
Est-ce que ça vous a parfois posé des problèmes éthiques ou déontologiques, justement, cette parole un peu particulière en politique ?
Non, je ne vois pas de quoi vous parler. Et ce n'est pas la langue de bois.
Freud a écrit qu'il y avait trois métiers impossibles, éduquer, gouverner et psychanalyser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, d'impossible dans le fait de gouverner ?
Je prends ces mots comme des mots d'humour. Non, gouverner, c'est extrêmement compliqué, mais ça n'est nullement impossible. C'est compliqué parce que les foules sont ce qu'elles sont, parce que les opinions publiques ont évolué, parce que mon père aimait citer cette phrase du général de Gaulle. Il disait « Le prestige du chef est dans son mystère ». Aujourd'hui, quel mystère ont les chefs ? Aucun. Ça rend les choses à la fois beaucoup plus ouvertes, transparentes, et tant mieux, ça crée des pressions positives. Il y a des décisions qu'on prend sans arrêt, c'est excitant. La politique n'a pas perdu de son... Elle a peut-être perdu de son mystère, mais elle n'a pas perdu de son charme, de son attrait, de sa nécessité. Mais Freud a vraiment été un homme qui avait un sens d'humour énorme.
Voilà, c'était Pierre Moscovici. Il dit que c'est compliqué pour un homme politique de faire une analyse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je pense que c'est compliqué.
Pourquoi ?
Je pense que c'est compliqué parce que l'homme politique donne de lui une certaine image. Et c'est vrai qu'il y a peu de place dans cette présentation de soi pour le conflit, pour l'angoisse. Si vous voulez, la psychanalyse, effectivement, elle va plutôt dans le sens inverse, c'est d'aller travailler sur ce qui fait en nous ce qu'on appelle quelquefois l'ambivalence, c'est-à-dire l'hésitation entre deux motions, deux mouvements qui sont opposés. Le fait d'être hésitant, incertain, pour le psychanalyste, c'est normal, si vous voulez. Un être humain normal, dans une situation normale, il y a des moments où il est engagé dans l'action, mais il y a des moments dans lesquels il est dans le temps de la réflexion, le temps de la méditation, le temps de l'hésitation, le temps de la critique, le temps de l'autocritique. Eh bien ça, c'est possible pour quelqu'un qui s'engage dans un processus analytique et qui donc n'est pas dans l'exigence d'être un homme public pour lequel il n'y a pas du tout...
Il n'y a pas de place
ni vis-à-vis de l'extérieur, ni vis-à-vis de l'intérieur. Il faut bien comprendre que ça n'est pas possible de tenir cette position si on se pose trop de questions sur soi.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Lui, il a fait une psychothérapie. Il n'était pas à cette époque-là un homme politique.
Alors, cela dit, il y a des hommes politiques qui font des psychanalyses.
Oui.
Je peux en témoigner puisque moi j'ai eu des gens
qui sont des
ministres et en analyse. Donc ça arrive.
Et ils arrivent à poursuivre leur carrière ensuite.
Oui.
D'accord.
Oui.
C'est pas si incompatible alors.
Je ne vais pas en dire plus parce que sinon vous allez pister, mais ils sont des gens qui sont, oui, en responsabilité politique aujourd'hui. Oui. Donc c'est difficile, mais ça n'est pas exceptionnel.
Bon. Eh bien, merci Christophe Dejour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager l'analyse d'Anna. Je rappelle les références de votre dernier livre, Souffrir au travail n'est pas une fatalité, Le choix, et c'est publié aux éditions Bayard. Je remercie également tous les inconscients qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la technique, Anne-Laure Cochet. À la programmation musicale, Thierry Dupin. Documentation, production, Laure Grand-Besançon. Réalisation, Clément Baudet. N'est pas fou qui veut, c'était la dernière. J'espère que cette émission vous aura permis d'entendre d'une autre façon nos malaises contemporains. Bonne rentrée à tous.